Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hatzkwe.
Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Gatekakawe. C'est le moment du journal en français, donc voici d'abord les principales articulations. Les victimes de la crise de 2015 qui ont des dossiers à la CPI, qui le désirent, ont désormais le droit de participer personnellement à toute la procédure judiciaire de cette cour. L'annonce a été faite par les organisations CPI et SOS Torture. On fera le point dans ce journal. Et puis l'ONG locale Parsem appelle le gouvernement à éviter les dépenses inutiles et à lutter efficacement contre la corruption. Cet appel est lancé dans le cadre de la révision budgétaire pour l'exercice 2023-2024. Enfin, le sida refait surface dans la province de Muyinga. 490 cas ont été identifiés de janvier à décembre de cette année. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, le développement.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les victimes de la crise de 2015 qui ont des dossiers à la Cour pénale internationale CPI peuvent désormais participer personnellement à toutes les étapes de la procédure devant cette cour. C'est l'annonce faite par CPI et SOS Torture. Ces deux organisations précisent qu'il y a une fiche à remplir avant de pouvoir accéder à ce droit. On écoute Maître Lambert Nigaroula, président de la CPI, et représente les deux organisations.
Comme vous le savez, ça fait déjà plus de 6 ans que l'enquête a été ouverte sur la situation au Burundi. Et après 6 ans, il y a eu effectivement d'autres rapports de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi. À certains moments, il se peut, ça peut être demain ou après-demain, on ne sait pas, ça reste c'est le secret professionnel du bureau du procureur, mais nous estimons quand même que le bureau du procureur a eu suffisamment d'informations quitte à ce qu'il peut clôturer les enquêtes et franchir l'étape suivante. Mais nous estimons qu'après 6 ans, il est temps d'informer l'opinion, surtout les victimes, qu'il y a aussi une fiche à compléter afin d'être à jour. Si demain ou après-demain l'enquête venait à être clôturée, il ne faut pas que les victimes soient à surprise de ne pas avoir eu connaissance de cette fiche. Donc c'est l'une des étapes qu'il faut remplir avant la prochaine étape qui pourrait arriver, je ne sais pas quand, parce que ça reste confidentiel. Toute personne qui a l'intention, qui veut participer, parce qu'il y a ceux qui veulent se faire représenter par des avocats, c'est leur droit, mais il y a des gens qui veulent participer personnellement dans toutes les phases de la procédure. C'est le droit, c'est prévu par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et c'est ça la différence avec d'autres mécanismes internationaux. La CPI autorise les victimes, parce que c'est les victimes elles-mêmes qui ont souffert, qui ont vécu cette situation dramatique, donc qui peuvent accéder à toutes les phases de la procédure, du début à la fin, contrairement aux autres mécanismes. Toutes les personnes qui vont remplir la fiche n'auront pas automatiquement le droit. C'est la greffe ou la section de participation des victimes et réparation qui va opérer un choix et dire parmi les 50 personnes qui ont rempli la fiche, seules 5 ou 10 ont été acceptées.
Lambert Nigaroula. Et dans le domaine de l'économie, la révision budgétaire ne donnera pas de résultats tant que le gouvernement n'arrête pas ses mauvaises habitudes de dépenser n'importe comment ou de lutter réellement contre la corruption. C'est une analyse de Faustin Dikoumana, expert en économie et directeur national de l'ONG locale Parsem. C'est suite à la récente décision du Conseil des ministres d'annuler certaines dépenses pour contenir le déficit budgétaire. Faustin Dikoumana l'a dit ce lundi au cours d'un point de presse écouté.
Nous avons dit que la structure budgétaire, surtout au niveau de recettes, de ces, est dans les inquiétudes. Parce qu'en dessous de 700 milliards qu'il fallait financer, couplé à une attente de l'appui des bailleurs d'offres de 900 milliards, alors qu'on sait, on analyse même le déblocage de ces appuis des bailleurs d'offres, ne s'est pas fait selon les attentes. Ce premier trimestre de l'exercice budgétaire, nous avions constaté à l'époque qu'il y avait 1600 milliards de recettes qui étaient encore hypothétiques au niveau de la mobilisation. Mais le constat est que tout ce qui est en train de faire, on tend à éliminer les dépenses liées à l'investissement, alors que la dette va toujours crescendo. Le constat met qu'il y a toujours des dépenses douteuses, non transparentes, dont même le rendement est difficile à apprécier, à analyser. Il faut revoir tout ça. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, n'a pas encore sa force et sa vigueur aujourd'hui. Cela porte toujours en tort à la bonne gestion du peu de ressources budgétaires dont dispose le pays. C'est notamment par exemple la continuation des subventions, des coopératives de plus de 100 milliards. Il faut voir vraiment profondément que tous ces projets de base qui ne rapportent rien au niveau de la rentabilité.
Faustin Dikoumana recommande au gouvernement de se baser sur un récent rapport produit par des experts. De même, cette révision budgétaire devrait être soumise à un groupe d'experts pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Le directeur national de la PARSEM invite les autorités à cesser les dépenses inutiles et à mettre en place une politique pour attirer les devises dont le pays a tant besoin. On écoute encore une fois Faustin Dikoumana.
Pour cela, PARSEM propose qu'il y ait une commission ad hoc des experts de haut niveau pour voir réellement l'analyse du budget actuel et certaines dépenses qui ont été fixées par rapport à l'orientation des politiques publiques. Deuxièmement, la rigueur et la discipline dans la gestion. Le gouvernement doit savoir qu'il faut une stratégie de mobilisation des ressources extérieures, financement extérieur. Détrompez-vous, je le répète, le gouvernement, la situation du Burundi est difficile. On ne pourra pas faire face à cette difficulté économique, même si on mobilise autant que faire se peut, les recettes fiscales. Les recettes fiscales sont mobilisées sont en frambou. Les frambou, on ne va pas acheter à l'extérieur. Même le gouvernement vient d'annuler certaines dépenses liées à l'importation, liées à l'opérement à devise. C'est un problème. Donc, une stratégie de mobilisation de financement extérieur, ça c'est très fondamental. La transparence dans la préparation du budget 2024-2025 pour qu'à l'horizon de moyen terme, on commence à se préparer et ne pas continuer à sombrer dans l'incertitude, d'évoluer dans l'inconnu, non planifié, et opérer des formes consistantes à travers la récente publication des résultats de l'évaluation PIFA, qui devait inaugurer une dynamique d'introduction des réformes nouvelles, parce que l'analyse a été faite, les résultats sont là. Aussi, le gouvernement doit prouver sa volonté de faire une stratégie de lutte contre la corruption. Ça sera un contrôle budgétaire sérieux. Des institutions comme la Cour des comptes, qui ne sont pas là pour jouer leur rôle, on ne comprend pas pourquoi les autorités de l'exécutif veulent toujours s'affranchir d'un contrôle sérieux des institutions de contre-pouvoir qui sont là pour promouvoir la gestion de la chose publique pour l'intérêt du citoyen, pour l'intérêt du contribuable. On ne comprend pas ce comportement et ça doit évoluer.
Dans la suite de cette édition sur la radio Inzambaga Terakawe, le 18 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des immigrants. Au Burundi, cette journée arrive au moment où la plupart des Burundais qui vont travailler à l'étranger rencontrent pas mal de difficultés. En communiqué sorti par l'Observation nationale de lutte contre la criminalité transnationale, NLCT, où est ton frère, précise que plusieurs Burundais manquent souvent de documents de voyage pour pouvoir aller travailler à l'étranger. Maître Prime Mbarukeye, président de l'ONLCT, demande au gouvernement burundais de ratifier une convention qui protège le droit des Burundais qui vont à l'étranger. Écoutez.
L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONS, tu es ton frère, regrette le fait que, malgré les efforts très significatifs fournis par le Burundi en matière de la promotion de l'emploi des migrants au Burundi, un grand pas reste encore à faire, car les droits des migrants burundais sont souvent bafoués une fois arrivés à l'étranger. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment, pour certains, le manque de documents de voyage dont l'obtention est parfois difficile, voire impossible, car ils sont très chers et leur accès difficile, et les migrants burundais préfèrent ils sont plutôt voyager sans documents de voyage en passant et par des voies clandestines. Et pour d'autres, une fois arrivés à destination, les délais de validité de ces documents de voyage s'expirent vite et les migrants burundais se trouvent souvent dans l'impossibilité absolue de procéder à leur renouvellement étant à l'étranger et ils sont souvent emprisonnés par manque de documents de voyage ou de séjour valides et leurs familles ne peuvent plus les retrouver facilement. Tel est le cas pour les migrants burundais se trouvant en Tanzanie par exemple, en Afrique du Sud, en Zambie, au Kenya, en Ouganda, au Malawi, sur le continent africain, en Oman et en Arabie Saoudite ou au Koweït, concernant les migrants burundais qui se trouvent dans le Golfe arabe, pour ne citer que ces pays-là. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONS, où est ton frère, déplore également le fait que le flux migratoire concerne également les enfants burundais à destination surtout de la Tanzanie et de la RDC. D'après les enquêtes menées en 2022 par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale ONS trouvé ton frère, 3062 enfants burundais ont migré vers les pays précités, c'est-à-dire la Tanzanie et la RDC, parmi lesquels la majorité, c'est-à-dire 1806 enfants, ont pris la destination tanzanienne, soit 58,98%, tandis que 1256 enfants ont migré vers la RDC, soit 40,01%. Par tous ces motifs, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONS, tu es ton frère, il voudrait en même temps saisir cette heureuse opportunité pour demander au gouvernement burundais de faire tout ce qui est à son pouvoir pour ratifier la convention adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1990 pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.
Inzamba. Nouvelle des provinces à présent, la lutte contre le VIH-Sida n'est plus une préoccupation majeure de certaines personnes en province de Muyinga. En témoigne l'effectif de plus de 490 nouveaux cas recensés de janvier à décembre 2023. Le bureau provincial de la santé qui a mis à jour cette situation a indiqué que la colline Murama comptait le plus grand nombre de nouveaux cas. Les détails avec Pierre Gaung.
Plus de 490 nouveaux cas de personnes ayant contracté le VIH-Sida ont été recensés dans les trois districts sanitaires que compte la province de Muyinga au cours de l'année 2023. Le conseiller du gouverneur de la province de Muyinga, en charge des questions administratives et financières, Jean-Berk Mans Mabassi, l'a déclaré samedi sur la colline Murama, lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, sous le thème « Le rôle de chaque citoyen dans la lutte contre le sida est indéniable ». Au niveau de toute la province, la colline Murama a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de VIH-Sida, selon le même rapport.
Nous ne doutons pas de la présence de malades ici, car depuis le mois de janvier 2023, selon un chiffre provenant de différents endroits de la province et de la direction provinciale de la santé, un nombre significatif de personnes ont été contaminées, soit exactement 497. Le district sanitaire de Gachoro compte 95 malades, le district sanitaire de Giteranyi compte 163 et le district sanitaire de Muyinga en compte 239. Cela signifie qu'en moyenne, 50 personnes ont été contaminées chaque mois.
La représentante provinciale des personnes vivant avec le VIH-Sida, Madame Rose Sebouga, a indiqué que ces dernières ont la ferme volonté d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le sida, mais qu'elles font face à certains agissements sociaux, tels que la stigmatisation et l'exclusion des malades.
Nous aspirons à un objectif ambitieux, éliminer les contaminations par le VIH-Sida d'ici 2030. En effet, le développement du pays est entravé lorsque les individus sont accablés par cette maladie, devenant ainsi un fardeau pour la nation. Atteindre nos objectifs devient difficile en présence continue de la discrimination et du harcèlement envers des personnes atteintes du VIH-Sida.
Jean Berkmans Mhabassi a exhorté la population de Muyinga à redoubler de vigilance pour lutter contre le fléau du VIH-Sida, car il demeure une triste réalité dans la communauté burundaise.
Capsule la province de Gitega, les enseignants vacataires de la direction communale de l'enseignement en commune Mutaogogne Il réclame des arriérés d'indemnité de 55 000 francs burundais chaque an. Il demande aussi la révision du contrat de travail. Les détails avec Olivia Gakima.
Les informations recueillies auprès des enseignants vacataires de la direction communale de l'enseignement à Mutaho révèlent que l'année dernière, la DCE leur devait 55 000 francs burundais. Les mêmes informations indiquent que cette année scolaire, ils ont signé un nouveau contrat où ils espéraient une légère amélioration, mais à leur grande surprise, ils ont chacun perdu 5 000 francs. Ils menacent la direction communale de suspendre les cours au deuxième trimestre si leur situation n'est pas résolue, comme le mentionne l'un d'entre eux.
Qu'ils essaient de revoir le contrat de travail des enseignants vacataires. Dans le cas contraire, nous tenons à vous informer que nous allons arrêter de travailler au deuxième trimestre si d'ici là, nous ne sommes pas encore totalement régularisés. De plus, il faudra qu'ils viennent pour que nous puissions nous réunir afin de signer de nouveaux contrats, car nous ne pouvons pas accepter de continuer à travailler à perte. Sinon, nous allons rester à la maison pour vaquer à des activités champêtres. Aujourd'hui, un cultivateur touche 3000 francs par jour. Il est donc incompréhensible pour nous de payer quelqu'un qui s'occupe de nos champs 3000 francs, alors que nous touchons entre 1200 et 1500 francs burundais par jour.
Face à toutes ces lamentations, la rédaction de la radio Nzamba Gatekakawe n'a pas encore obtenu la version de la direction communale de l'éducation à Mutaho pour qu'elle apporte des éclaircissements sur ce dossier.
Et pour clore ce journal, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, met en garde les dignitaires qui profitent des positions qu'ils occupent dans la gestion du pays et d'user de leurs influences au niveau du parti au pouvoir pour manipuler les nouveaux postes de responsabilité. Le président Ndayishimiye l'a dit ce lundi à Makamba quand il présentait le nouveau gouverneur de la province Makamba. On écoute.
Dans ce pays, certaines personnes sont influencées par des intentions néfastes. Il y a ceux qui aspirent à devenir gouverneurs de province en prétendant posséder des biens appartenant à des personnalités si haut placées du système, alors qu'en réalité, ils causent du tort à la province. Face à cela, il est essentiel de rejeter fermement de telles affirmations. Si quelqu'un prétend exercer une influence sur vous, dites simplement non. Refusez. Si quelqu'un essaie de prendre votre place, signalez-lui que vous avez observé cette tentative de s'emparer de votre poste et souhaitez-lui la bienvenue. Dans ce cas, informez le président de la République que vous préférez être nommé à un autre poste de responsabilité. Nous avons déjà vu par le passé des situations où des individus exerçaient une influence et induisirent un administrateur dans une commune que je ne citerai pas ici. Il lui avait ordonné de vendre une propriété appartenant à la commune. L'administrateur était pris de panique car même le ministre en charge faisait partie du groupe qui tentait de l'influencer. Le ministre lui-même étant sous pression d'une autre personnalité haut placée.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez avec Élie Claude Ninahave. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. Bonne soirée, chef.